Voilà, nous allons faire ce matin deux lectures. C'est un culte, comme on l'a nommé, un culte de Noël. Un culte où nous allons parler de ce que Dieu dit et accomplit. J'ai choisi deux passages de la Bible parce que quand on regarde dans les évangiles, il n'y a que deux textes qui nous raconte l'histoire, on va dire, de la venue du Seigneur. Un avec l'histoire un peu particulière avec les anges, qui ont vu la plus merveilleuse des chorales. Et dans le deuxième passage, nous est racontée la venue de mages qui sont venus d'Orient pour adorer le Seigneur. Alors, je vous invite à lire avec moi, faire cette lecture dans Luc chapitre 2. Alors, si vous voulez simplement écouter, il n'y a pas de souci. Luc chapitre 2, versets 1 à 38. Alors, bien sûr, il nous est donné un petit peu le contexte de la chose. Hein, c'était sous l'empereur Auguste. Hein. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque de Quirinius, où Quirinius, pardon, était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux, parce que c'est des troupeaux qui paissaient. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Je pense qu'on aurait réagi de la même façon. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour vous. Pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, et c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et, tout à coup, apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu! Alors, je n'ai pas la partition musicale, donc malheureusement, je ne pourrai pas le chanter, donc réjouissez-vous. Mais ce chant disait: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ou qu'il agrée, ça dépend des versions. Quand les anges les eurent quittés, donc je suppose à la fin du cantique, pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Lorsque, 8 jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tout le peuple, de tous les peuples. Pardon. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle est devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au moment où elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient de Dieu, que Dieu délivre, Jérusalem. Et après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph s'en retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait, il était plein de sagesse et de grâce, et la grâce de Dieu, reposait sur lui. Alors ça, c'est un premier texte, le deuxième dans Matthieu. Matthieu, à partir du chapitre 1er, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde. Marie, sa mère, liée par des fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchit à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. » Et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle n'ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages, venant de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi que comptait son peuple, et leur demanda d'où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis, quand vous l'aurez trouvé, vous me le ferez savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils offrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jusque-là pour l'instant. Deux textes, comme je l'ai dit, qui nous racontent bien sûr cette merveilleuse promesse. J'ai noté un peu comme, on va dire, un titre ce matin. Quand Dieu dit, ce qui est annoncé s'accomplit. Sans pouvoir me tromper ce matin, nous pouvons affirmer que Dieu avait tout prévu pour proposer à l'humanité un salut merveilleux, mais qui allait coûter un sacrifice immense sur une croix. Dieu se manifeste, mais se manifeste, il veut se manifester à tous. On le dit, on l'a encore dit tout à l'heure, Jésus est venu pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Deux textes différents, mais je les prends comme des textes complémentaires quant à la volonté de Dieu pour le salut des hommes. Autant marqué, Dieu accomplit ses promesses. Nous sommes dans cette fête de fin d'année que représente Noël dans notre monde. Mais cette fête ne reflète pas vraiment la réalité puissante de la venue au monde de celui qui veut être le roi de nos vies et de nos cœurs. Maintenant, on pourrait dire que cette fête de Noël n'est devenue, pour ainsi dire, qu'une fête commerciale. Une fête où on pense, c'est vrai, à faire plaisir, je suis d'accord. On veut se retrouver en famille, mais est-ce vraiment là l'esprit de Noël, le cœur de Dieu? En réfléchissant à ces passages, je veux aussi me rappeler que sur la terre des hommes, avant de venir, je veux me rappeler que Jésus a quitté le Père pour un temps. Il a accepté de quitter le Père pour avoir des parents humains, comme nous, au travers de Marie et Joseph. Ça, c'est quelque chose, quand on y réfléchit, être dans une gloire que l'on ne peut même pas exprimer et accepter de venir sur une terre de misère. Allez, je passe au second point. Jésus a deuxièmement accepté de laisser sa gloire pour vivre dans l'humilité d'un foyer du peuple d'Israël. Pourquoi ne serait-il pas né chez un roi, au creux d'une famille royale, par exemple? Non. Il est venu avec son humilité, il est venu comme nous le dit cette parole, comme un rejeton, une faible pousse, une faible plante, Ésaïe 53. Et troisièmement, Jésus a accepté de quitter la paix et la félicité pour naître au milieu d'un peuple qui était sous occupation romaine. Mais bien plus encore, dans le monde où l'ennemi de Dieu, que l'on nomme Satan, tient les hommes captifs à cause du péché qui empêche l'accès à Dieu. Trois points que j'ai, entre guillemets, notés avant de continuer ce partage pour simplement nous faire réfléchir à combien l'amour de Dieu a été grand pour chacun de nous et pour l'humanité aussi. Parce que Dieu n'impose pas son salut. Qui ce matin peut dire « Dieu m'a forcé à me convertir » ? Personne. Dieu ne forcera jamais personne à faire quoi que ce soit. À un moment donné, la seule chose que les hommes feront, chrétiens ou pas, plieront les genoux devant lui. Ça, c'est écrit. Tout homme pliera les genoux devant lui. Et dès la Genèse, on voit que Dieu, dans son amour immense, a annoncé la venue d'un sauveur. Et régulièrement, tout au long de l'histoire du peuple que Dieu s'est choisi pour porter son nom parmi les nations, eh bien, il renouvelle son alliance et la promesse de la venue du Messie. Et c'est vrai que cela concerne beaucoup de textes. On est en train de le voir au travers des études bibliques en ce moment. Combien de fois Dieu manifeste son amour? Combien de fois il renouvelle son alliance? Parfois nous pouvons parfois trahir cette alliance parce que, comme nous le dit la parole, que celui qui est debout prenne garde de tomber, mais qui n'est jamais tombé? Qui n'a jamais failli dans sa vie spirituelle? Qui n'a jamais fléchi le genou à un moment donné sous les effets de l'ennemi, des ruses du diable? Et pourtant, Dieu nous a offert aussi, au travers de Jésus-Christ, un avocat. Et cet avocat, bien, plaide dans son amour, et bien, nos faiblesses. Mais il ne veut pas que nous en restions là, il veut que nous soyons forts. Mais Dieu veut, au travers de tout cela, que nous réalisions combien la venue de Jésus-Christ sur cette terre, eh bien, soit pas le fait marquant d'un jour. Parce que je pense que comme vous êtes, vous aussi, au sein de la parole de Dieu, des gens qui lisaient et recevez, vous, entre guillemets, vous allez chercher les pépites là où elles sont, et puis vous les prenez pour vous, et vous dites au Seigneur, merci parce que là, toi, au travers de cette parole, tu m'encourages. Au travers de cette parole, eh bien, tu me montres un chemin. Au travers de cette parole, Dieu nous nourrit. Et Jésus-Christ nous nourrit jour après jour. Un sauveur pour tous les hommes. C'est, en premier lieu, c'est une annonce aux gens qui sont les bergers. Et là, les bergers qui étaient là en proximité de cette auberge, entre guillemets, mais une annonce glorieuse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aurais aimé, honnêtement, j'aurais aimé être là. Bon, peut-être j'aurais, comme je l'ai dit tout à l'heure, réagi de la même façon que les bergers quand d'un seul coup, pouf, là, un ange apparaît, sorti de nulle part, qui commence à lui parler, et d'un seul coup, la gloire de Dieu tout autour d'eux, hein, un peu comme un cercle, ils ne pouvaient, entre guillemets, plus se sauver, mais ils étaient là, la gloire de Dieu resplendissait autour d'eux. Et l'ange leur annonce une merveilleuse nouvelle. Alors peut-être que certains étaient au courant de ces choses. Ils attendaient, je pense, un libérateur, un conquérant, quelqu'un qui allait prendre les armes et qui allait délivrer de l'occupant romain. Et pourtant, ils étaient en plein travail. Ils étaient seuls dans la nuit. Et pourtant, Dieu les a visités. Dieu n'a pas, entre guillemets, de timing personnel pour visiter, mais aussi pour annoncer de bonnes nouvelles. On peut recevoir la bonne nouvelle du salut, certes, dans une salle comme celle-ci, comme cela peut être sur un lieu de travail, comme ça peut être n'importe où. L'annonce faite, et après que les anges soient repartis, l'annonce faite de la venue du Messie, ils ont eu un choix à faire, comme nous avons toujours des choix à faire. Dieu nous place toujours devant un choix. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous auriez été avec tous les bergers et dire « Allez, on va aller voir si ce qu'on nous a raconté, là, c'est des... Comme on dit maintenant, c'est des cracks ou si c'est la vérité ?» C'est vrai que là, les bergers, ils se sont dit « Bon, ok, tu nous as dit ça, mais on va quand même aller vérifier. Hein. » C'est un peu comme les chrétiens de Béret, quand ils prenaient la parole, on leur annonçait des choses. Et bien, ils allaient vérifier dans la parole pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ils y sont allés. Ils ont vu, comme diraient certains, je suis venu, j'ai vu, bon, j'ai pas vaincu, mais j'ai cru. Ils ont cru. Ils ont cru parce qu'ils ont vu. Et pourtant, à un moment donné, Jésus dira, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Ils sont allés, donc ils ont vu, et ils ont vu quelque chose de merveilleux. Et pourtant, ce n'était qu'un enfant. Mais le plus merveilleux, c'est que ces anges qui leur avaient été, qui se sont imposés à eux, pardon, eh bien, avaient dit la vérité. Ils avaient dit la vérité. Cette nouvelle, encore, pour ce matin, de la venue d'un sauveur est annoncée. Mais quel crédit va-t-on donner à cette nouvelle ? Comment réagit-on ? Quand on est face à une bonne nouvelle, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on dit bon, je passe outre? Ils auraient très bien pu réagir de cette façon-là. Et parfois, quand on parle et qu'on annonce le message de Jésus-Christ, quand on témoigne, tous ne donnent pas de crédit à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, comme je le disais en prologue, Dieu propose un salut. Il offre un cadeau merveilleux. Mais dans ce monde, ce cadeau, ce merveilleux cadeau qui est proposé, souvent on le regarde comme le petit Jésus qu'on met dans la crèche et qu'on range pendant une année et qu'on ressort l'année d'après, couvert de poussière, qu'on nettoie. Ainsi va la vie. Malheureusement, Noël, c'est pas qu'une crèche. Noël, ce n'est pas que des cadeaux. Noël, ce n'est pas qu'un bon repas. C'est la plus merveilleuse des nouvelles. Dieu t'aime et t'a offert un cadeau merveilleux en Jésus-Christ. Dans le deuxième passage, il y a un fait particulier. Parce que je suis un peu curieux pour ces choses-là. Un fait cosmologique. C'est un gros mot, hein ? Ah, Célia, elle est contente. J'ai dit un gros mot. Cosmologique. N'oublions pas que Dieu est le créateur de toutes choses. Et pourtant, il l'a fait volontairement lever cette étoile, ce fait cosmologique, pour que à la vue de cette étoile, des mages soient intéressés. Alors moi, je me pose la question, pourquoi déjà des mages étrangers ? Pourquoi des mages étrangers sont venus pour voir le roi des Juifs ? Alors, qui leur a dit que c'était déjà le roi des Juifs ? Et en plus, ils venaient de naître. Comment ont-ils su que ce fait cosmique était en relation avec la venue d'un sauveur ? Bizarre. On pourrait se poser des questions. En Genèse 11, au verset 32, la parole de Dieu dit « C'est d'eux que sont issus tous les peuples qui se sont répandus sur la terre après le déluge. » Il y a des choses qui sont intéressantes et j'ai demandé à notre ami Alex de pouvoir projeter. C'est une étude biblique de quelqu'un qui a commenté cela Et on y trouve, dans un livre, ce qu'on appelle le livre de la sagesse, un texte fondateur chinois, et en résumé, on y lit que avant le commencement, il n'y avait rien et que ce n'était, donc Shangdi, un dieu, puisque c'est la traduction comme ça, qui a créé l'univers, la terre, en y plaçant un jardin parfait. Avec la poussière, Dieu créa l'homme et lui a donné le souffle de vie et lui donna une femme. Ça vous rappelle rien ? Vaguement, hein ? Avec pour seule interdiction de manger de l'arbre de la sagesse. Pareil, hein, ça a même consonance. Hein. Le serpent ancien, ou dragon, parce que chez les Chinois, c'est plutôt les dragons, ils aiment bien les dragons. Suscita le désir chez la femme. Là, même dans cette version-là, c'est la femme. Je suis désolé, hein, mais... La mort entra dans le monde et l'homme et la femme furent chassés du jardin parfait et au fur et à mesure des générations, l'homme devint de plus en plus méchant. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Genèse ? Il avait décidé de détruire toute chair, mais il trouva un homme juste et il décida de le sauver. Mais Dieu trouva un homme juste. Ah, tiens, c'est pareil. Noé, auquel il fit construire une arche. Putain, c'est bizarre. Il y a dû avoir beaucoup d'arches, de fait, ou alors c'est la même histoire. Pour sauver sa famille et les animaux. Alors apparemment, nous avons l'auteur du Yangzi, Yijing, hein, je ne suis pas chinois, hein, et Fuxi. Alors, on sait que Noé avait Sem, Cham et Japhet, hein, mais, vous savez, après, au niveau des noms, comme les langues se sont séparées, n'oublions pas, il y a eu aussi des transformations qui ont pu s'opérer. Et a écrit que Dieu leur a révélé qu'après une période de quatre périodes, alors ça, ça a été entre guillemets expliqué, mais ça sera beaucoup trop long pour ce matin, enverrait son fils, qui mourra pour permettre à tous les hommes de retrouver la communion avec lui. Et ceci est écrit afin que les sages, alors là, moi, je vais mettre plutôt le mot « mage », qui liront ce livre le reconnaissent, car quand ce fils paraîtra, une étoile les guidera jusqu'à lui. Ça, c'est pas de l'invention. Ce n'est pas inventé, ça fait partie du livre, c'est l'histoire qui a été transcrite par cet homme, bon, peut-être là aussi inspiré par Dieu, parce que de Noé sont issus tous les peuples. Et je me suis dit, l'Orient, ça s'arrête pas à 300 km. Ça s'arrête pas à 500 km. Non pas plus à 2000 km. L'Extrême-Orient, c'est quoi ? C'est la Chine. C'est très très loin. Et quand on fait une, entre guillemets, une ligne droite de Jérusalem, hein, jusqu'à la droite, hein. Bon, ça sera une droite un peu courbée puisque la Terre est ronde. Pour les plateux, je suis désolé, mais la Terre est ronde. Il y en a qui croient encore que la Terre est plate, mais bon. Eh bien, on se retrouve à une ville où, pendant des années, et ça c'est pas expliqué, mais j'ai entendu cette étude biblique, où l'empereur aller dans ce village où la famille de... j'ai du mal à le prononcer. S'est arrêté, l'extrême droite, et à partir de ce moment-là, il a commencé tous les ans à offrir un agneau en sacrifice. Étonnant, non ? Quelque chose qui se produit, et pendant des années, et après, ça s'est arrêter. Je suppose que les mages ont dû dire maintenant, bon, c'est bon, les sacrifices, arrêtez ce que nous avons lu, ce que nous avons reçu comme parole, ce que nous avons vu, eh bien, c'est accompli. Formidable. Et là, quand on voit que ce fait troublant, eh bien, correspond bien à ce qui est écrit dans la Genèse, on peut dire que Dieu a vraiment tout prévu. Tout prévu, non pas pour qu'une histoire se déroule comme ça, comme je le disais tout à l'heure, Dieu nous place devant notre responsabilité de « Que vas-tu faire de mon cadeau ?» Encore aujourd'hui, de par la surface de la terre, certes, on va encore fêter Noël, mais le plus important, c'est de pouvoir transmettre ce merveilleux message que Jésus-Christ s'est donné. Il a accepté de quitter la gloire, la magnificence, et j'en passe des mots parce qu'il y en a tellement, pour venir aimer et sauver ce que Dieu lui a donné. Comme nous avons pu le voir au cours des études bibliques, et je le disais déjà tout à l'heure, le cœur de Dieu n'a de cesse de vouloir bénir et aimer sa créature. Rappelons-nous encore aujourd'hui de la promesse de Dieu, que Dieu fit à Abraham. Toutes les... Non, ça vous dit rien ? Allez-y, tous ensemble. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toute sa postérité, parce qu'il a simplement obéi à la voix de Dieu. J'aurais bien voulu être à la place des mages aussi. Vous allez me dire, j'aurais bien voulu être partout. Bah oui, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime bien, non pas l'extraordinaire, mais j'aime bien voir les choses qui sont grandes et belles. Quand on voit que Dieu a su faire lever une étoile dans le cosmos pour nous, à notre vue humaine, une petite créature, mais cette petite créature était venue de lui, venue de Dieu, on peut dire que c'est quelque chose que l'on ne peut même pas nommer, même pas imaginer. Alors, la promesse d'un sauveur nous est donnée. Paul l'a rappelé encore tout à l'heure au travers de sa lecture, et c'est quelque chose que nous pouvons, jour après jour, nous rappeler. Cette grande nouvelle, eh bien, peut-être se poser la question, quelle place a Jésus dans mon cœur ? Est-ce qu'il est simplement dans un coin de cellier ? Est-ce qu'on le laisse être le roi ? Ou est-ce que parfois on peut s'en servir comme celui dont on a besoin parce qu'on appelle au secours, parce qu'on a un problème ou on a une difficulté ? Ça, ce sont des questions que l'on peut se poser. Mais à cette grande nouvelle, nous pouvons dire, Seigneur, je veux te laisser toute la place. Et quand les mages ont apporté l'or, l'encens, la myrrhe, certes, il y a du symbolisme derrière tout ça, mais quand j'ai écouté cette étude, le plus important, et dans les termes qui sont utilisés, parce que la langue hébraïque est très riche en termes et en réminiscences, parce qu'il faut connaître, hein. Mais dans le fait de donner cela, c'est comme s'ils se donnaient. Ils donnaient leur savoir, ils donnaient tout ce qui faisait leur eux-mêmes. Comprenez bien ce que je veux dire, c'est que quand on vient à Jésus, on ne vient pas donner des miettes. On ne vient pas donner que quelques bribes de notre vie. On vient tout donner. Tout donner. Dieu ne veut pas 98% de ta vie. Dieu ne veut pas 99,9% de ta vie. Il veut tout. Parce que quand tu seras auprès de lui, c'est le tout qui sera auprès de lui. Tu ne garderas rien de ce qui est ici-bas. Rien de mon, peut-être mon sale caractère, rien de mes mauvaises paroles, rien de toutes ces choses-là. Non, il faut tout lui donner, tout lui apporter. Alors, Parfois, nos prières peuvent être comme de l'or, de l'encens. Or, la myrrhe, on dit toujours que c'est plutôt pour le reflet des souffrances. Mais n'avons-nous pas des souffrances à apporter au Seigneur? N'avons-nous pas des difficultés? N'avons-nous pas tout ce qui fait notre vie de misère à apporter au Seigneur? Je me rappelais cette parole de Jésus qui nous dit, au travers de la bouche de celui qui l'a écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Alors, contrairement aux mages qui ont fait un voyage qui était très, 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 très long, pour lui rendre hommage, eh bien, maintenant, cette bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. Et pour tous ceux qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur, cette bonne nouvelle, si tu l'as reçue, donne-la aussi comme un cadeau à tous ceux qui sont autour de toi. Offre-la. Ne retiens pas ta langue. Prêche. Dieu aime sa créature et il l'a prouvé. Et peut-être que la question que Jésus te pose ce matin serait « Que vas-tu faire de mon amour maintenant ?»« Que vas-tu faire de mon amour ?» Nous voulons le recevoir simplement. Nous voulons peut-être aussi renouveler notre engagement parce que nous savons que l'imperfection, elle est bien là. Mais Seigneur, il est celui qui nous a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » C'est-à-dire qu'il nous appelle à cette transformation jour après jour. Jésus va grandir, il va grandir en sagesse, il va être rempli de l'Esprit. Et bien, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous aussi. Il veut que, à cette naissance, après avoir reçu Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, nous grandissions et nous soyons aussi remplis de sa sagesse et de son esprit pour la gloire de Dieu. Alors, laisse ton cœur à Jésus. On prie ensemble.